France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Ambroise Croizat, le père de la sécurité sociale. Le 17 février 1951, sous une pluie battante, 1 million de personnes suivent le cercueil d'Ambroise Croizat vers le cimetière du Père-Lachaise. Et pourtant, ce nom est presque oublié aujourd'hui, alors que cet homme a totalement changé notre vie. À la fin de la guerre, ce jeune métallo communiste, député du Front populaire, ancien résistant, devient à 46 ans ministre communiste du Travail sous le général de Gaulle. En 7 mois seulement, il concrétise l'utopie révolutionnaire de la sécurité sociale pour tous. Tout d'abord en faisant voter un texte, ce qui permet à cette sécu, comme on l'appelle, de devenir réalité avec l'installation d'une caisse primaire d'assurance maladie dans chaque département, un système qui perdure de nos jours. C'est donc grâce à Ambroise Croizat, cet humaniste épris de justice sociale, que nous allons aujourd'hui chez le médecin, à l'hôpital ou à la pharmacie sans payer les frais de santé. Ou presque. Du tiers payant jusqu'à la couverture maladie universelle, la Sécu a fait son trou, devenant vital pour nous tous et objet de débats politiques depuis 80 ans. Notre invité aujourd'hui, le cinéaste Gilles Perret, à qui l'on doit le film documentaire La Sociale, qui raconte précisément l'épopée de la Sécu. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Deschamps, rédaction chez Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Le 29 novembre 2021, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la présidentielle, tweet « C'est Ambroise Croizat qui a créé la sécurité sociale ». Puis il enfonce le clou « Tous ceux qui ont une carte de sécurité sociale aujourd'hui dans leur poche, c'est comme s'ils avaient une carte du Parti communiste français ». Bon, pourquoi pas. Mais qui est cet Ambroise Croizat dont se réclame le leader communiste? Eh bien, un quasi-inconnu, victime d'une chose trappe dont l'histoire est hélas coutumière. Alors, retraçons sa vie pour lui rendre hommage. L'occasion également de parcourir l'histoire de la classe ouvrière et du syndicalisme au début du XXe siècle. Car ce futur ministre de Gaulle a des origines modestes. Il naît le 28 janvier 1901 à Notre-Dame de Briançon, en Savoie, à quelques mètres de l'usine qui fait vivre toute la ville et sa famille. C'est donc auprès de son père que le petit Ambroise découvre la dure condition ouvrière. Un métallo travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour, pour 8 sous de l'heure, une misère. L'espérance de vie n'est alors que de 50 ans. En cas d'accident, et ils sont nombreux, la peine ne tombe plus. Il faut alors compter sur une hypothétique charité et plus sûrement sur la solidarité des copains. Une vie précaire que raconte Michel Etiévant, ex-métallo et biographe d'Ambroise Croizat, au début du documentaire La Sociale de Gilles Perret.
Ça veut dire vivre sans protection sociale. Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Donc on vit dans la peur, dans la terreur de l'accident du travail, dans la peur de la maladie. Et ici, à quelques pas, un ouvrier me racontait que dans les années 38, alors qu'il était ouvrier paysan, il avait été obligé de vendre 2 vaches, il en avait 3, pour pouvoir opérer son fils de l'appendicite.
Ce père militant prend la tête de la première grande grève de son usine le 21 mars 1906, après l'explosion d'un four, la veille, un drame qui a fait 8 morts. En représailles, il est muté dans une autre usine, à une trentaine de kilomètres, à Ugine. Mais il ne tient pas compte de ce premier avertissement, et crée un syndicat pour dénoncer les conditions de travail inhumaines. Et cette fois, il est viré, purement et simplement. La famille Croizat débarque alors à Villeurbanne, près de Lyon, en 1907, où le père devient cheminot. Et, tout naturellement, il adhère à la CGT et milite pour la paix. Mais la guerre 14-18 va tout chambouler. Le père et le fils aîné sont mobilisés. À 13 ans, le jeune Ambroise doit abandonner l'école et entrer à l'usine pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur. En tant qu'apprenti ajusteur-outilleur, Ambroise enchaîne 10 heures de travail par jour. En digne fils de son père, à 16 ans, il adhère à la CGT et en gravit les échelons à toute allure. Quatre mois plus tard, il intègre la direction du syndicat général des métallurgistes de Lyon, auquel il restera fidèle toute sa vie. En 1918, les ouvriers regardent vers l'Est, où la révolution bolchevique est en marche depuis un an. Aussi, lorsque le 25 septembre 1920, l'acte de naissance du PCF est proclamé lors du fameux congrès de Tours, Ambroise et son père Antoine prennent ensemble la carte du parti. Un an plus tard, ils adhèrent à la CGTU, branche de la CGT liée au Parti communiste. Son activité syndicale lui vaut, comme à son père jadis, d'être renvoyé de l'usine. Suivent alors des années de galère durant lesquelles Ambroise vit de petits boulots et de la soupe populaire. Les patrons, avertis, se sont passés le mot. Mais ce jeune militant communiste apprend vite. En 1926, il monte à Paris, comme on dit, et devient membre actif du PCF. Il y développe des qualités d'orateur et de meneur d'hommes, attentif à chacun. Dans la capitale, il se partage entre le parti et la Fédération des métaux CGTU. Entièrement dévoué à la cause, il n'est pas souvent chez lui, comme il le confiera plus tard à sa fille Liliane, née en août 36.
Pendant les deux années 1928 et 1929, il n'a pas dû passer plus de deux mois à la maison. La Fédération l'envoyait soutenir des conflits dans tous les coins de France. Il partait comme ça, par le train, souvent sans argent, avec sa valise bourrée de vie ouvrière et de brochures dont la vente l'aidait à survivre. On le comprend, la Fédération était pauvre et trouvait là, tant bien que mal, un moyen de payer ses permanents.
Dans les années 30, Ambroise Croizat soutient les grandes grèves ouvrières partout en France. Mais en face, le fascisme naissant gagne du terrain. Ouvriers et fascistes s'affrontent physiquement lors de grandes manifestations de 1934, notamment celle du 6 février, au cours de laquelle les ligues factieuses essaient de prendre l'Assemblée nationale. Le Parti communiste et la CGTU ripostent trois jours plus tard avec une contre-manifestation qui, elle, fait 6 morts et 1000 blessés. Puis le 12 février, c'est la grève générale et l'unité retrouvée entre la CGT, la CGTU, la SFIO, l'ancêtre du PS, et le Parti communiste français. Une démarche à laquelle Ambroise Croizat participe activement sous la bannière de l'Union des métallos. Un engagement clairvoyant, comme le montre cet extrait d'un courrier de 1934.
C'est de nous que viendra l'unité. Dans chaque usine, il faut dès aujourd'hui prôner une action revendicative commune. Débattre dans des assemblées communes. Face au fascisme, face à la désespérance ouvrière, le peuple de France réclame un vrai front de lutte. Nous ne réaliserons cet espoir que par la création d'une organisation unique des métallurgistes.
Conscient qu'il faut être à la fois sur le terrain et dans les cercles du pouvoir, Ambroise Croizat est élu député communiste le 3 mai 1936 dans le 14e arrondissement de Paris. Puis le 27 novembre, il devient le premier secrétaire de la Fédération unifiée des ouvriers en métaux et similaires de France. Et puis le Front populaire est en marche. Ce sont les fameux accords de Matignon, avec les premiers congés payés, la semaine de 40 heures, de fortes hausses de salaire, parfois doublées, la création des conventions collectives, le libre exercice du droit syndical. Les métallos sont fiers d'être aux avant-postes de ces réformes. Ambroise Croizat, lui, est en première ligne puisqu'il siège depuis mai à la commission spéciale du gouvernement chargée précisément d'élaborer les réformes et de les mettre en place. Dans ses discours, l'ex-métallo Croizat répète inlassablement son credo qui tient en trois mots « santé, culture, loisirs ». Trois mots, dit-il, que la classe ouvrière n'osait jamais prononcer. Mais, lucide, tout de même, il prévient. Gardons-nous de les considérer comme acquis. Le patronat ne désarme jamais. Et il voit juste. Ainsi, dès le 12 novembre 38, le gouvernement Daladier détricote déjà les accords de Matignon avec une baisse des salaires, de nouveaux impôts et la fin de la semaine de 40 heures. Des grèves éclatent, mais elles sont réprimées avec une rare violence et de nombreux responsables syndicaux CGT sont licenciés. Dans son édito du journal de la Fédération des métallos, Ambroise Croizat écrit en décembre 38
« Le 30 novembre, le patronat a opéré le savant triage qu'il attendait. Il tient sa revanche sociale sur 1936. Des femmes ont faim, des enfants ont froid. L'homme n'est plus au travail. » Partout, les consignes ont été données par les patrons revanchards. Les sous-traitants des grandes entreprises ont été sommés de ne pas embaucher des ouvriers licenciés. Plus que jamais, nos solidarités vont vers eux. C'est eux, la France. Cette France bafouée par ceux qui ne rêvaient que de revanche.
Le 23 août 1939 est signé le pacte germano-soviétique. Une catastrophe pour les communistes. La droite française, qui déclarait haut et fort quelques mois plus tôt, plutôt Hitler que le Front populaire, trouve là un excellent prétexte pour évincer les deux. Et elle ne fait pas les choses à moitié. Ainsi, le 25 août, le journal L'Humanité est suspendu, le 26, le Parti communiste est dissous, et le 27, la presse communiste est interdite. Quant aux députés communistes, évidemment, ils ne sont pas épargnés. Ainsi, le 7 octobre, Ambroise Croizat est arrêté sur les marches de l'Assemblée nationale, puis embastillé dès le lendemain à la prison de la Santé. Et les politiques se déchaînent, à droite comme à gauche, à l'instar d'Édouard Daladier, président du Conseil, autrement dit, celui qui gouverne la France.
Il y a quelques semaines, les chefs communistes se présentaient à vous comme de farouches patriotes. C'était, à les entendre, de nouveaux jacobins. Ils annonçaient, dans les meetings, qu'ils seraient à la pointe du combat contre Hitler et contre ses armées. Et il a suffi que les bolcheviks trouvent leur intérêt à s'entendre avec les nazis et à partager avec eux la Pologne pour que ces prétendus nouveaux jacobins passe l'apologie d'une paix de trahison.
De son cachot, Ambroise Croizat proteste, écrit des lettres, mais rien n'y fait. Le 3 avril 1940, après un simulacre de procès à huis clos, le 3e tribunal militaire condamne 36 députés communistes à 5 ans de prison ferme, 4000 euros d'amende et la déchéance des droits civiques et politiques. Ce qui fera dire à l'ex-député Croizat, après son exclusion de l'Assemblée nationale, élu par 11 000 voix, je suis déchu aujourd'hui par 492 voix. Je n'ai ici de compte à rendre qu'aux premières. Et il retourne alors à la Santé, durant 2 mois. Il est brinque-ballé ensuite de prison en prison. Puis, après une traversée éprouvante de la Méditerranée, il arrive le 5 avril 41 au bagne d'Alger, l'un des plus durs d'Afrique du Nord. Il y restera 22 mois. Car malgré le débarquement allié en Algérie, le 8 novembre 1942, les portes de sa cellule ne s'ouvrent que 3 mois plus tard. Il a perdu 32 kilos, mais rien de sagnac. Très vite, il côtoie les gaullistes de gauche algérois impliqués dans le mouvement de résistance combat. Ce dernier jouera d'ailleurs un rôle décisif dans le ralliement de la résistance d'Afrique du Nord à De Gaulle. Tandis qu'Ambroise Croizat reprend ses activités syndicales et politiques, devenant un ardent résistant, en France, l'opposition à l'occupation nazie ne s'organise. Elle prend la forme d'un Conseil national de la résistance, le fameux CNR, présidé jusqu'à sa mort par Jean Moulin. Lors de sa création, le 27 mai 1943 à Paris, ses 18 membres accomplissent un exploit en parvenant à rassembler les 8 mouvements de la résistance sous une direction unique. Mais la France est toujours occupée. C'est pourquoi, le 17 septembre, une assemblée consultative est instituée à Alger, comme le raconte Michel Etiévan, biographe d'Ambroise Croizat, dans le documentaire La Sociale.
Les députés communistes pensent être libérés, mais il faudra qu'ils attendent encore 3 mois avant de l'être, et encore sous conditions politiques. On leur dit, on vous libère, mais vous ne faites rien, évidemment, ils ne vont pas suivre la consigne. En juin 1943, le général de Gaulle crée à Alger le Comité français de libération nationale. Il s'entoure d'une assemblée consultative dans laquelle Ambroise Croizat va être désigné par la CGT clandestine président de la commission du travail. Et c'est sur les bancs de cette assemblée, avec d'autres députés, parlementaires, résistants, que vont mûrir les grandes inventions sociales de la libération.
En métropole, le 15 mars 1944, quelques semaines avant le débarquement sur les côtes normandes, les 6 courants politiques de gauche et de droite du CNR continuent de définir la stratégie de résistance contre l'occupant, mais élaborent également un programme commun d'après-guerre, joliment nommé les Jours Heureux, ce texte, qui dessine la France de l'après-guerre donc, pose déjà les bases de la future sécurité sociale afin, je cite, de mettre définitivement l'homme à l'abri du besoin, en finir avec l'indignité, la souffrance, le rejet et l'exclusion. De l'autre côté de la Méditerranée, dès avril 44, sous la houlette de l'infatigable Croizat, une équipe de l'Assemblée consultative installée, comme on l'a vu à Alger, définit les grandes lignes de ce que doit être la Sécu. Le futur ministre la décrit comme le système le plus humain, le plus juste, basé sur une vraie solidarité nationale et qui permet de garantir à tous une véritable protection sociale. Si Ambroise Croizat travaille d'arrache-pied pour son pays, il doit toutefois patienter jusqu'en août 44 pour fouler à nouveau le sol de la métropole. Début septembre, il retrouve enfin sa femme, Denise, et sa fille Liliane, qui témoigne ici.
Ma mère eut des difficultés à le reconnaître tant il avait été marqué par l'enfermement. L'image est floue, mais je garde en mémoire la maigreur de son visage, des traits creusés par les années de bagne. Il en parlait parfois, mais c'était plutôt pour évoquer la douleur des copains.
Mai 1945, la libération tant espérée arrive enfin. Mais la France, elle, n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Alors il faut tout reconstruire, et vite. Sur le plan politique, les membres du CNR ont une incontestable légitimité. Et il est donc plus que temps de donner à la classe ouvrière des droits sociaux. Mais il faut d'abord une loi.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui affardeux, qui tout le temps se font des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Ambroise Croizat, le père de la Sécu.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En cet automne 1945, la France est exsangue. Il faut repartir de zéro, ou presque. Mais avec la liberté retrouvée, elle peut enfin reprendre son avenir en main. Une période très propice aux réformes. à commencer par cette fameuse protection sociale tant attendue par des millions de Françaises et de Français qui sortent de 4 années de guerre et de privation. Mais pour la mettre sur pied, cette protection sociale, il lui faut tout d'abord une solide colonne vertébrale. Ce sera l'ordonnance du 4 octobre 1945, dont le premier article dit ceci.
Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir tous les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.
Bon, la formulation est un peu alambiquée, mais la volonté d'une protection sociale forte est bien là. De plus, toujours en octobre 1945, 151 députés communistes entrent à l'Assemblée nationale. Ces élus incarnent l'espoir de la classe ouvrière, un avenir meilleur, une prise en charge de la santé. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, doit en tenir compte. C'est pourquoi, le 13 novembre 1945, 5 communistes obtiennent des portefeuilles, et pas des moindres. Ainsi, pour Ambroise Croizat, c'est sans surprise celui du travail et de la sécurité sociale. Il ne pouvait rêver mieux. Sa fille, Liliane, raconte.
En quelques jours, nous nous sommes retrouvés rue de Grenelle, 14 pièces sous les ors et les tapisseries des gobelins du ministère du Travail, bien loin du 3 pièces précaire de la rue Daguerre. Un autre monde.
Un autre monde, oui, mais les lambris et les honneurs n'impressionnent guère l'ancien métallo, seul ouvrier pourtant à occuper ce poste prestigieux à ce jour. Sur les photos, on découvre un homme de taille moyenne, cheveux courts et raies sur le côté, mais l'air affable, l'œil bleu rieur et vif, toujours tiré à quatre épingles et coiffé d'un éternel Borsalino. Toujours clairvoyant, il pressent qu'il ne restera pas très longtemps rue de Grenelle. Donc, il doit agir vite, comme il l'explique dans son discours du 26 décembre 1945.
Le peuple de France doit savoir que c'est de son effort de production que dépendra en vérité la réalisation pratique de la loi nouvelle, comme en dépend du reste, à tout point de vue, la renaissance de notre pays.
Et surtout, il n'oublie pas d'où il vient. Le 3 février 1946, lors du congrès des métallurgistes de la région de Lyon, il promet « Ministre du Travail, j'entends demeurer fidèle à mon origine, à ma formation, à mes attaches ouvrières et mettre mon expérience au service de la nation. » Bien. Maintenant, il faut rendre la sécu accessible à tous et toutes dans chaque département. Certes, Croizat ne part pas de zéro, mais c'est à la fois un atout et un handicap. Un atout, oui, parce que des assurances sociales existent bel et bien, grâce aux lois de 1928, puis de 1930. Des lois combattues au passage par le patronat. Mais ces assurances ne protègent qu'un petit tiers des travailleurs et leurs familles. Ambroise Croizat en a bien conscience. Il a conscience aussi des difficultés qui l'attendent. Il le confie le 1er janvier 1946.
La loi nouvelle détermine l'extension des assurances sociales à toutes les catégories de Français qui jusqu'ici n'en bénéficiaient pas. Artisans, commerçants, exploitants agricoles, aux veuves ou conjoints, ainsi que les mères de famille, d'une manière générale, tous ceux qui exercent une activité professionnelle non salariée ou même qui, pour une raison quelconque, n'en exerce aucune. Le public, toutefois, ne doit pas ignorer les difficultés considérables que l'application d'une réforme aussi importante soulèvera tant au point de vue administratif qu'au point de vue de son financement.
Le ministre de la Sécu se retrouve face à un réseau complexe de 1090 caisses professionnelles, patronales, confessionnelles, syndicales et mutuelles. Ces caisses, bien sûr, n'entendent pas perdre leurs prérogatives. Il faudra donc toute la diplomatie et la détermination d'Ambroise Croizat et de sa garde rapprochée pour rencontrer les responsables de ces organismes et les convaincre de l'avantage du nouveau système. Il s'agit aussi d'arracher sans trembler aux compagnies d'assurance privée la gestion lucrative des accidents du travail. Ou bien encore d'amadouer les médecins qui dénoncent l'étatisation de leur profession et le contrôle de leurs activités. Sans oublier les patrons qui refusent de siéger aux côtés de la CGT. Mais Ambroise Croizat tient bon sur cette réforme capitale, avec des formules qui portent haut son idée. La sécurité sociale, c'est la vie, et la vie, c'est l'enfant. Le gage de notre prospérité future. car avec elle, effectivement, tout va changer. L'assurance maladie devient un droit fondamental, universel, obligatoire et solidaire. Et qui plus est, démocratique. Car comme le précise Ambroise Croizat...
Pour la première fois, l'appareil nouveau met la gestion de l'intérêt des travailleurs eux-mêmes dans les mains des travailleurs eux-mêmes. Ceci est d'autant plus important car l'assurance, et particulièrement pour les accidents du travail, relevait jusqu'à ce jour de compagnies commerciales et pour les allocations familiales, d'une gestion purement patronale.
La tâche est titanesque, puisqu'il s'agit de faire sortir de terre 138 caisses primaires d'assurance maladie sur tout le territoire, proposant partout les mêmes services. Sans oublier 113 caisses d'allocations familiales, essentiellement gérées au départ par les travailleurs eux-mêmes. Ambroise Croizat en fixe le calendrier le 2 janvier 1946 lors d'une conférence de presse.
Le 1er juillet 1946 commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale. C'est au 1er janvier 1947 que les caisses de sécurité sociale assumeront la charge de l'assurance contre les accidents du travail. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Et les assurés âgés vont bénéficier de retraites suffisantes pour assurer la sécurité de leurs vieux jours.
Épaulé par ses équipes, Ambroise Croizat retrousse ses manches, négocie sur le terrain et fait appel aux bonnes volontés. « Rien ne se fera sans vous », martèle-t-il le 12 mai 46 devant les travailleurs. La sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise. « Elle réclame vos mains », déclare-t-il. Eh bien, l'appel est entendu, parce qu'il en trouve des mains, le ministre. Principalement parmi les membres de la CGT, comme le raconte Jolfred Fregonara, ex-métallo-CGT, qui a 26 ans a monté la caisse de sécurité sociale de Haute-Savoie. Il témoigne dans le film La Sociale.
En 1946, à la mise en place de la Sécu, dans les 90 départements, il y a eu 90 personnes comme moi qui ont fait le même travail. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Le 4 mai 1946, au 27 avril, aux élections, c'est seule la CGT qui a supporté la mise en place et la création des premières caisses primaires de sécurité sociale. Ça, je vous l'assure, vous pouvez me croire, parce que j'y ai vécu. C'est la CGT.
Aussi, en moins d'un an, ces fameuses caisses, les CPAM et les CAF, comme on les nomme aujourd'hui encore, sont installées et fonctionnent autour de quatre grands principes fondamentaux. L'unicité, l'universalité, la solidarité et la démocratie. Des valeurs fortes qui se concrétisent malgré les nombreuses oppositions qui se lèvent de partout, comme le rapporte le sociologue Frédéric Pierru.
D'abord des résistances de la part de groupes qui avaient déjà leur propre régime, à savoir les agriculteurs, les fonctionnaires, certains salariés des grandes entreprises publiques qui, eux, vont vouloir garder leur régime. Et puis, ceux qui n'avaient pas de régime, comme les indépendants, refusent d'être affiliés au régime général des salariés de l'industrie et du commerce et donc vont réclamer leur propre régime. Il y a la mutualité, hein, et on peut comprendre pourquoi, parce que la mutualité se voit dépossédée de sa raison d'être par la création de la sécurité sociale, autrement dit, c'est son existence même qui est menacée. Et puis il y a le cas des syndicats de médecins libéraux qui seront des farouches opposants à la création de la sécurité sociale pour éviter ce que les responsables des syndicats médicaux appelaient la médecine de caisse, hein, le spectre d'une médecine sociale ou d'une médecine socialisée où les médecins seraient sous les ordres des caisses de sécurité sociale et pire, sous les ordres de la CGT, ce qui était impensable pour le monde des médecins libéraux.
Mis à part pour les médecins, cette réforme est d'emblée populaire, parce qu'on comprend tout de suite qu'elle est fondamentale, historique. D'ailleurs, la présence d'un stand sécurité sociale à la Foire de Paris en 1946, au milieu des dernières inventions et des appareils électroménagers en témoigne. Et bien sûr, Ambroise Croizat sort de son ministère du Travail et de la Santé pour une petite visite à la Foire.
Je suis en ce moment en train d'apprécier le stand de la Sécurité sociale où est inscrit les différentes œuvres qui sont partie intégrante de ce plan français de sécurité sociale. D'après les chiffres qui nous sont donnés et qui sont inscrits sur les différents panneaux, tout le monde peut se rendre compte de la portée immense que cette loi exerce sur la situation de l'ensemble des Français et des Françaises. C'est ainsi que l'on peut constater que de 1930 à 1944, les assurances sociales ont versé aux travailleurs plus de 53 milliards de francs. Et dans le cadre de la nouvelle loi qui vient d'être votée le 27 avril, nous aurons encore à enregistrer des améliorations importantes qui permettront à tous et à toutes de se rendre compte de l'importance considérable de cette loi qui va permettre de placer la France au premier rang des nations européennes du point de vue du progrès social.
Ambroise Croizat ne s'arrête pas là. Le concept de retraite est lui aussi totalement repensé. Pour le ministre du Travail, elle doit être une nouvelle étape de la vie et non plus l'antichambre de la mort. La loi du 22 mai 1946 va ainsi sortir de la précarité 1,5 million de travailleurs âgés. Et ce n'est pas fini. La refonte du Code du travail, la création des centres professionnels d'apprentissage, le statut de la fonction publique, c'est lui, Croizat. La reconnaissance intégrale du droit syndical, sa participation à la gestion du personnel, l'égalité des sexes pour l'accès et la promotion dans les services publics, c'est toujours lui. La médecine du travail, les comités d'hygiène et de sécurité, la reconnaissance des maladies professionnelles ou encore un rôle économique attribué au comité d'entreprise, c'est encore lui. C'est enfin le 2 octobre 1946, la mise en place de la caisse de compensation des ouvriers du bâtiment et des travaux publics qui indemnise les jours chômés pour cause d'intempéries. Mais le 5 mai 1947, le ministre est débarqué du gouvernement Ramadier. L'expérience communiste a vécu. Alors, dès le lendemain, l'ex-métallo reprend la présidence de la Fédération de la métallurgie, une fonction à plein temps, dans une maison qu'il n'a jamais quittée. Toujours visionnaire, il met en garde contre les dangers d'une Europe libérale. Mais il est usé, atteint d'un cancer. De plus, en juillet 1950, il perd Victor, son fils unique, de 26 ans, victime d'un accident du travail à Lyon. C'en est trop. Le 11 février 1951, au matin, Croizat succombe à une hémorragie à l'hôpital Foch de Suresnes. Il a tout juste 50 ans. Les progrès sociaux inouïs impulsés par Ambroise Croizat ont profondément changé la vie de tous les Français. C'est pourquoi une marée humaine d'1 million de personnes suit son cercueil et son portrait géant le 17 février 1951 dans les rues de Paris, sous une pluie battante, jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. L'hommage est international. Dans le cortège des métallos de Lorraine ou de Finlande, côtoient des sidérurgistes de Rome et de Milan et des ouvriers de Tunis et d'Alger. Un enterrement à la Hugo, titrera la presse le lendemain. Pourtant, son nom est peu à peu gommé, car en France, le communisme n'est plus en odeur de sainteté. L'effacement est tel que 9 ans après sa mort, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, créée en 1960 à Saint-Étienne, perfore tous les plafonds de l'ignominie. Elle ne mentionne même pas le nom d'Ambroise Croizat. À la grande stupeur de Jolfred Fregonara, l'ex-métallo à qui l'on doit la première caisse de sécurité sociale, en Haute-Savoie, et de Bernard Friot, sociologue et spécialiste de la sécu.
Les directives d'Ambroise Croizat, pour nous, étaient supérieures à celles de Larocque.
D'accord.
Larocque, c'était le technicien. C'était celui qui avait rédigé la sécurité sociale, mais Ambroise Croizat, c'est celui qui a dit « il faut la mettre en place ».
D'accord.
Donc, il faut revaloriser un peu Ambroise Croizat.
D'accord.
Moi, je n'ai pas d'explication, si ce n'est de, je ne sais pas, pas mettre en dessous d'Ambroise Croizat communiste. Je ne sais pas.
Mais moi-même, quand j'ai fait des études dans les années 60-70, le nom d'Ambroise Croizat n'a jamais été prononcé dans mes cours. Sur la sécurité sociale. Hein. On ne parlait que de Larocque. Nous sommes encore une fois dans ce révisionnisme qui nie l'histoire ouvrière.
Une cancel culture avant l'heure. Allez, il doit bien rester une petite place au Panthéon pour y accueillir ce grand homme qu'est Croizat. aux côtés de Jean Zay, par exemple. Ils auraient tant à se dire, eux les artisans héroïques du modèle social et culturel de la France, à qui ils ont fait tant de bien.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. You think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Ambroise Croizat, dont nous allons parler avec notre invité, le cinéaste Gilles Perret. Bonjour.
Bonjour.
Vous intervenez des studios de France Bleu à Chambéry. Donc, on vous doit le film documentaire La Sociale, qui raconte l'épopée de la Sécu, donc, une conquête fondamentale pour le peuple français. Et pourtant, son histoire est mal connue. Alors, moins heureusement depuis votre film. Mais enfin, quand on pense que Croizat a été gommé des livres d'histoire, au profit de Pierre Larocque, notamment, présenté couramment comme le père fondateur de la Sécu, c'est terrible. Et c'est ce que vous avez voulu rectifier avec votre film ?
Oui, oui, c'est ce que j'ai voulu rectifier, parce que c'est vrai que normalement, quand on crée des lois, elles portent le nom du ministre. Hein, il y a la loi Veil, et on ne dit pas la loi Larocque. On aurait dû dire le père fondateur, c'est Ambroise Croizat. Donc c'est vraiment assez injuste, mais bon, évidemment qu'il y a des raisons à ça. Hein, c'est qu'encore aujourd'hui, dire que c'est un ministre communiste et que c'est la CGT seule qui a mis en place les caisses de sécurité sociale, c'est encore difficile à sortir de certaines bouches, mais on va y arriver petit à petit.
Nous avons entendu, c'est un extrait de votre film, La Sociale, un ancien métallo-cégétiste, Jolfred Fregonara, protester contre l'absence totale d'évocation d'Ambroise Croizat à l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Savez-vous si cet oubli, entre guillemets, a été réparé depuis quand même ?
Non, ça n'a pas été réparé. Il y a eu un timbre qui a été édité à l'effigie de Croizat et Larocque sur le même timbre, mais il n'est toujours pas fait mention d'Ambroise Croizat dans cette école, ce qui est un peu triste, parce que c'est vrai que c'est destiné à tous les cadres dirigeants de la sécurité sociale, et on évacue la dimension politique de la création de cette sécurité sociale au profit d'une dimension uniquement technocratique, gestionnaire, et c'est dommage aussi pour le personnel, parce que ça donnerait aussi du sens peut-être plus à leur travail. Donc, voilà, mais en même temps, c'est pas un hasard.
Alors on rappelle l'œuvre magnifique du CNR qui, j'imagine, dans la première partie de réunion, élaborait la stratégie pour combattre l'occupant et qui, dans une deuxième partie, préparait la France d'après-guerre. C'était une France sociale, la sécurité sociale était le pilier de ce projet.
Oui, on l'a appelé un peu la sécurité sociale comme étant la fille de la résistance, donc c'était un pilier colossal, et il faut redire que cette sécurité sociale a été créée à un moment donné où la France était ruinée, c'est-à-dire que le PIB était retombé à un tiers de ce qu'il était avant-guerre, tout était détruit, les gens étaient dans un état pitoyable, et c'est à ce moment-là qu'on crée un édifice des plus humanistes qui soient, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on entend c'est plus possible, on peut plus payer ci, on peut plus payer ça, c'est pas une question réaliste, c'est juste d'avoir la volonté politique. Aujourd'hui, on est la 6e ou 7e puissance économique mondiale, donc évidemment que c'est possible de créer et d'améliorer encore la sécurité sociale, mais pour ça, il faut accepter de poser la question du partage des richesses. Et cette question est quand même assez de plus en plus difficile à poser.
Bon, on y reviendra, mais les ouvriers préfèrent parler de conquêtes sociales ou de conquis sociaux plutôt que d'acquis sociaux. Dans ce domaine, le vocabulaire compte.
Oui, bien sûr, puisque si on dit des conquis, on voit que ça s'est pas tombé comme ça du ciel. Et par contre, si on dit des acquis, on a l'impression aussi que c'est immuable, qu'on n'y touchera jamais, alors qu'on voit bien que cette sécurité sociale est régulièrement attaquée. On diminue des remboursements, on confie de plus en plus au privé la question des retraites, en voulant faire de la retraite par capitalisation. On voit bien que la menace est un peu partout. Mais vous savez, c'est comme la question des cotisations sociales qu'on a transformées en charges sociales.
Bien sûr,
il y a une question de dialectique, parce que la charge, ça pèse, on dirait que c'est un truc lourd, alors que la cotisation sociale, qu'on devrait toujours appeler ça, c'est quelque chose de beau. On prend une partie de notre salaire qu'on met dans un pot commun pour se protéger mutuellement, pour immédiatement payer la retraite de la grand-mère ou payer son père qui est malade, et c'est magnifique en termes d'état d'esprit, et donc la cotisation, c'est beau, la charge, ça pèse. Donc la dialectique, c'est important.
Dites-moi, les communistes et les socialistes étaient majoritaires au sein du CNR ou non ?
Oui, c'est eux qui ont emporté la bataille au cours des longues négociations de rédaction au sein du CNR, et c'est principalement Pierre Villon qui met le point final, qui était le représentant du Front National de l'époque, qui était affilié au Parti communiste. Et donc c'est sûr que c'est les forces de gauche majoritaires qui remportent la victoire et qui mettent le curseur du programme du CNR très très à gauche.
Alors on a du mal à se souvenir de la force du Parti communiste français au début du XXe siècle, alors qu'il est aujourd'hui réduit à quasiment peau de chagrin. Cette force venait de la solidarité du PC avec la classe ouvrière, à qui il a donné finalement une dignité politique et sociale, non ?
sur le sol français, l'apport des congés payés, ben, on parle de la sécurité sociale, des comités d'entreprise, tout ça, c'est considérable. Donc ça changeait, et les changements se voyaient directement dans la vie des gens et dans la vie des travailleurs. Et le Parti communiste, et cette gauche-là, en tout cas, parlait des travailleurs, les mettait en avant, les héroïsait aussi. Et oui, c'est peut-être aussi ce qui nous manque aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi un des rôles de la gauche d'héroïser un petit peu ce monde du travail pour que les gens se sentent représentés et représentés dignement.
Gilles Perret, ne raccrochez surtout pas. On se retrouve dans 3 minutes. On écoute Hervé, moins une.
Le ventilo tourne en rond pendant que je brasse de l'air, le même qu'hier, putain. Je ferme les yeux pour voir la mer. Je ferme les yeux pour voir la mer. Elle défile sur le bandeau. L'info paramilitaire, est-ce qu'ils auront ma peau? Je commence à croire que j'ai peur. Je commence à croire que j'espère. Comme des échos, des destins paratonnerres, en manque d'avis pour l'ego. Est-ce qu'on notera qui m'enterre? Est-ce qu'on notera qui m'enterre? À quoi bon chercher les mots si les sirènes chantent l'histoire? À chercher qui abonde si l'horizon pue l'horreur? Ça retournera son pullover.
Affaires sensibles.
Gilles Perret, le déficit chronique de la Sécu, le fameux trou de la Sécu, est régulièrement évoqué. Pire, à droite, des voix s'élèvent depuis quelques années contre elle, à l'instar de Denis Kessler du MEDEF, qui répète à qui veut l'entendre qu'il faut défaire méthodiquement le programme du CNR, je le cite, hein. D'abord dans la revue Challenge du 4 octobre 2007, puis en 2013 devant le MEDEF. Ce sont des mots graves, hein, parce qu'ils peuvent instiller l'idée d'une protection sociale par capitalisation. Pourquoi en arrive-t-on à entendre de tels propos? Qu'est-ce que ça raconte?
Ça raconte que les libéraux n'ont jamais vraiment digéré ce qu'ils avaient perdu à la Libération quand Ambroise Croizat crée la sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est un marché considérable de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse qui échappe au marché et au privé. Donc du coup, ils n'ont jamais tout à fait lâché l'affaire. Vous vous rendez compte, le budget de la sécurité sociale, c'est une fois et demie le budget de l'État. Et tout ça échappe au privé. Donc le gâteau est appétissant. Donc c'est normal que les libéraux qui devaient se taire à la Libération, puisqu'ils avaient largement collaboré, mais ont repris du poil de la bête et aujourd'hui veulent récupérer ce marché-là.
Alors, au cas où on aurait du mal aujourd'hui à mesurer combien la sécurité sociale a agi en profondeur sur la société française et à quel point elle serait risquée d'y porter atteinte, Colette Beck, professeure de sociologie des politiques sociales à Paris Descartes, nous rafraîchit la mémoire.
La sécurité sociale a totalement transformé la société française. L'espérance de vie. Fin 19e siècle, la moyenne espérance de vie, 45 ans. En 1960, donc 15 ans après l'instauration de la sécurité sociale, l'espérance de vie est à 70 ans, ce qui était énorme comme bond. La mortalité infantile était en 45, juste avant la sécurité sociale, de 108 décès pour 1000 naissances. Et elle est, en 54, c'est-à-dire 9 ans seulement après, de 37 pour 1000. La sécurité sociale, elle a vraiment libéré les catégories les plus basses de la société de ce sentiment d'insécurité qui était un véritable cancer de la société française.
Bon, je ne vous demande pas si vous êtes d'accord, vous l'êtes évidemment. On parle également de revoir le statut des patients en affection longue durée, comme le cancer, le diabète, la maladie d'Alzheimer. Vous pensez qu'il y a un risque de ce genre au nom de la réduction des dépenses publiques ?
Oui, ben bien sûr, hein, on parle aussi de coups de rabot, donc on voit bien à qui s'adressent ces coups de rabot, hein, ça s'adresse aussi, ça s'adresse à tout le monde, mais ceux qui en seront les plus victimes, évidemment que ce sont les plus fragiles et les moins riches de notre société, puisque 5 euros par-ci, 10 euros par-là, ça en fait rire certains, dans les classes populaires, c'est quelque chose qui plombe, et c'est vraiment des décisions qui sont prises par des piètres, des petits économistes, on va dire, parce que, en fait, on va, avec des mesures comme ça, on sait qu'on plonge les gens dans la pauvreté, dans la précarité. Et au final, sur le long temps, évidemment que la précarité et la pauvreté, ça coûte cher. Parce que ça coûte cher en termes de maladie, puisqu'on devient contagieux, donc ça coûte cher à la société sur le long terme. Mais c'est sûr que c'est des mesures qui peuvent paraître agréables à écouter dans l'immédiateté, mais on sait qu'au final, c'est pas la bonne solution. Mais, donc on peut que regretter des effets d'annonce comme ça. Et puis, je vais vous dire, quand on entend Colette Beck, ça rigole pas, là, on parle pas de savoir si le taux de croissance est bon, si l'inflation est bonne. Là, on vous parle de la vie, quoi. Quand on diminue par 3 la mortalité infantile, quand on augmente l'espérance de vie de 15 ans, vous vous rendez compte, ça, c'est de la politique au service des gens. Et donc, il y a aussi là des choix à faire, savoir si on est au service des gens ou si on est au service de l'argent, quoi.
Croisa au Panthéon, on imagine ?
On pourrait largement l'imaginer quand on voit le nombre de vies qu'il a sauvées, à quel point il a amélioré le quotidien. Vous savez, il avait une phrase qui disait que la sécurité sociale, c'était pour débarrasser les gens de l'angoisse, des angoisses du lendemain et de leur offrir une perspective de vie sans être toujours dans la peur, dans la terreur. Et c'est vrai que rien que pour ça, il mériterait le Panthéon. Puis on voit bien aussi qu'on est aujourd'hui dans une société et dans un monde du travail où là où on met les gens dans l'intranquillité sociale, alors sous prétexte de flexibilité, de mobilité, il faudrait que tout le monde soit en mouvement partout, qu'on bouge sans arrêt et que ça, ce serait le bonheur. Alors que la majeure partie des gens, ils aspirent qu'à une chose, c'est de travailler et vivre dignement de leur salaire et qu'ils ont besoin de stabilité pour pas être dans l'angoisse. Donc on voit bien que les principes qui nous régissent ont été modifiés. Mais ce qui est modifié dans un sens peut évidemment être modifié dans l'autre.
Dites-moi, Gilles Perret, votre film actuellement au cinéma avec François Ruffin, Au boulot, je ne l'ai pas encore vu.
C'est pas trop tard.
Mais non, c'est pas trop tard. Justement, quelle était votre motivation ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer et voulu dire ?
Bon, c'est un peu la volonté qu'on a, et François Ruffin et moi, de redonner de la dignité, de la visibilité au milieu populaire et aux gens qui travaillent dans des conditions qui sont souvent difficiles ou qui sont justement en recherche de travail. Donc c'était de rendre visibles les métiers qui ont été qualifiés par Emmanuel Macron des métiers de la seconde ligne, vous savez, pendant le Covid, et donc il y a 17 métiers comme ça qui ont été répertoriés et qui tenaient le pays debout et qui selon les promesses du président, devaient être revalorisés. Mais bon, en termes de revalorisation, ils n'ont rien eu, si ce n'est qu'ils ont vu arriver la retraite à 64 ans, qui pèse encore plus sur le dos de ces métiers populaires. Donc du coup, voilà, on voulait documenter un petit peu ça, et on a essayé de trouver le moyen le plus rigolo possible, ou en tout cas le plus léger, et qui mette à la fois du rire et de l'émotion pour vous raconter ça.
Bien, ce sera le mot de la fin, Gilles Perret. Merci infiniment, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Et Affaires Sensibles, aujourd'hui, Ambroise Croizat, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Laurent Baudon.